Restons debout pour un moment de prière. Inclinons nos têtes. Cher Dieu, nous estimons que c'est un grand privilège d'être ici ce soir, en ce moment solennel, pour apporter un Christ vivant à un monde mourant et une génération qui se meurt. Nous voudrions demander, Seigneur, que tu oignes nos paroles et nos efforts, afin qu'ils ne te reviennent pas à vide, mais qu'ils accomplissent le but pour lequel ils sont destinés. Aide chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme ou jeune fille qui sont ici dans le besoin. Et Père, nous savons que nous sommes tous nécessiteux. Et lorsque nous nous en irons ce soir, puissions-nous sentir dans notre cœur comme ceux qui venaient d'Emmaüs après avoir été témoins de la résurrection de Christ, disant, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait le long du chemin ?» Accorde le Seigneur. Guéris les malades et les affligés. Qu'il n'y en ait aucun de faible au milieu de nous après la réunion ce soir. Et par-dessus tout, qu'il ne reste aucun incrédule, Seigneur. Qu'ils croient tous à la vie éternelle, car c'est dans le but de notre rassemblement ici. Ces bénédictions, nous les demandons pour l'honneur du royaume de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Pouvez-vous asseoir? Il est bon de revenir ce soir. Je vois qu'il y en a quelques-uns debout là autour. Et je pense que les lignes téléphoniques sont ouvertes maintenant avec différentes villes à travers le pays, San Francisco, Tucson et jusque dans l'Est. Et par le téléphone, nous leur adressons nos salutations. Nous sommes dans la salle ici ce soir, l'auditorium principal est comble. Les allées, les murs sont pleines de gens debout. Et nous comprenons que demain soir, nous essaierons d'ouvrir un autre côté ici vers le gymnase et avoir une plus grande salle qui pourra peut-être accueillir 2000 personnes en plus. Ainsi, nous l'espérons pour demain. Car si l'auditoire est rempli ce soir, le premier soir, eh bien, nous croyons qu'il sera plus encore demain soir. Je vois qu'ils ont aussi placé des chaises supplémentaires ce soir. Nous sommes dans une grande expectative. Premièrement, la venue du Seigneur Jésus. Ensuite, le salut des âmes perdues qui vont le recevoir ce soir et être prêts pour sa venue quand il viendra, quand il apparaîtra. Je désire offrir une salutation spéciale et souhaiter la bienvenue à tous ces hommes de bien sur l'estrade qui, à ce que je comprends, sont des ministres pour la plupart, 200 ou plus qui se tiennent sur l'estrade. Et nous sommes certainement reconnaissants qu'ils soient ici. À vous tous, où que vous soyez dans les différentes parties du pays, je me rends compte que quelques-uns ici viennent d'outre-mer. Ainsi, nous sommes reconnaissants que vous soyez ici à vous réjouir de cette communion avec nous qui sommes dans l'expectative de ce que Dieu va nous donner pendant cette convention. Il semble que, depuis le moment où j'ai pensé revenir pour ces quelques jours de réunion, mon propre cœur était étrangement en alerte par un formidable sentiment que quelque chose est sur le point d'arriver. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'espère que c'est une grande révélation de Dieu qui nous préparera et fera de nous de meilleurs citoyens de son royaume alors que nous marchons dans ce monde obscur de péché et d'incrédulité. Ce terrain ce soir, ce lieu même, représente quelque chose de grand pour moi. Depuis que j'ai su qu'ils allaient construire cet auditoire ici, de l'école, j'ai désiré tenir une réunion à cet endroit. Je suis très reconnaissant au conseil d'administration de l'école et ceux qui l'ont gracieusement accordé. C'était à cet endroit exactement où ce bâtiment se tient ce soir qu'une grande chose est arrivée il y a quelque 30 ans exactement sur le même terrain. Ce n'était rien d'autre qu'un champ de genêt en ce temps-là. Et je vivais dans une petite maison juste là derrière à environ 200 mètres. J'étais fort concerné à l'époque par le salut de mon père et de ma mère, qui sont tous deux partis ce soir. Et ce jour-là spécialement, je m'inquiétais au sujet de mon père. Je me souviens que je dormais sous le porche en ce temps chaud de l'été. Ceci est écrit, je crois, dans la brochure « Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours ». Ou bien, c'était dans la brochure intitulée « Je n'ai pas désobéi à la vision céleste ». Étant couché sous le porche, je fus soudain réveillé et un fardeau est venu sur mon cœur pour mon père. Comme beaucoup d'entre vous ici de la ville connaissiez mon père, je pense que c'était un grand homme, bien que pécheur, mais il avait une mauvaise habitude que j'ai toujours essayé de combattre autant que je l'ai pu, c'est la boisson. Cette nuit-là, il était en train de boire. Je me suis réveillé avec un lourd fardeau pour lui sur mon cœur. J'étais simplement en pyjama. J'ai enfilé mon pantalon tout en gardant ma veste de pyjama. Et je suis allé me promener dans ce champ de genêt, à l'endroit même où se tient ce bâtiment maintenant. Et je me suis agenouillé pour prier pour mon père. Et pendant que je priais et demandais à Dieu de le sauver et de ne pas le laisser mourir pécheur, car je l'aimais, pendant que j'étais en prière, je me suis levé pour regarder vers l'est, et j'ai eu une vision. Et juste au-dessus de moi, beaucoup connaissent la vision, se tenait le Seigneur Jésus. Maintenant, je ne suis pas allergique aux illusions, que je sache, mais les visions sont réelles. Et le Seigneur Jésus se tenait là, c'est la première fois que je le voyais dans une vision de ce type. Il était juste environ 3 mètres au-dessus de ma tête. Il se tenait dans les airs et avançait un pied, comme pour faire un pas. Il portait un vêtement blanc, bordé d'une frange sur le côté. Ses cheveux descendaient sur ses épaules. Il ressemblait à un homme dont parle la Bible, d'une trentaine d'années. Mais un petit gars d'une constitution mince, très petit. Il semblait qu'il ne pesait pas plus que 65 kilos. Je regardais, je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait peut-être pas. Ainsi, je me suis frotté les yeux et j'ai regardé de nouveau et il se tenait en quelque sorte de côté, le visage de profil en quelque sorte. Et son regard ressemblait à celui que j'ai toujours vu en vision. C'était comme la tête du Christ d'Hoffmann à 30 ans. C'est la raison pour laquelle j'ai cela dans ma maison, sur ma littérature, partout où je peux la mettre, parce que c'est comme cela qu'elle est la plus ressemblante. Seulement, il paraissait plus petit. Comme je le regardais, je pensais, c'est pas possible que je suis en train de voir mon Seigneur. Je me tenais là, je dirais dans cette position-ci, et peut-être juste exactement en dessous de l'endroit où se trouve cette chair ici maintenant. C'était quelque part dans les parages, dans un rayon de 35 à 45 mètres, pour autant que je puisse le mesurer de l'endroit où je me tiens ici, ce cercle. Je regardais, il se tenait là. Je me suis mordu le doigt pour savoir si je dormais. Vous savez comment? Il ne semblait pas qu'il pouvait en être ainsi. J'étais jeune dans le Seigneur, alors je prêchais depuis 6 mois environ. Je me suis mordu le doigt. J'ai pris un genêt, je l'ai brisé. Et beaucoup d'entre vous qui vivez dans le pays, vous savez, ces petits cure-dents qui sont dans les genêts. J'ai commencé à mâcher cela et j'ai dit, c'est pas possible, je suis en train de rêver. Voilà ma maison, il y a papa, maman et les enfants. Voilà l'endroit où se trouvait la vieille mare de la maison de briques où je chassais le canard, c'est environ 200 mètres. Et me voilà dans le champ. Il doit donc bien en être ainsi. J'ai donné un coup de pied par terre, j'ai tapé du pied, secoué la tête, je me suis tordu les mains, j'ai regardé de nouveau, encore une fois, et il se tenait toujours là. Et le vent commença à souffler, et je vis les genêts s'agiter. Et quand le vent commença à souffler, son vêtement s'agitait. En même temps, comme les vêtements suspendus, un fil qui flotte au vent. Il se tenait là, et je le regardais. Je pensais, si je pouvais simplement jeter un regard sur son visage. Et il regardait vers l'est, juste dans cette direction. Il observait intensément. Et je me suis avancé pour voir son visage de plus près, mais je ne le voyais toujours pas très bien. Il avait les mains devant lui. C'était plutôt caché de l'endroit où je me tenais. Je me suis avancé à nouveau. Je me suis éclairci la voix comme ceci pour voir si je pouvais attirer son attention. Mais il ne bougeait pas. Alors j'ai pensé, je vais peut-être l'appeler. Et quand j'ai dit, Jésus, il a tourné la tête. Et tout en me regardant, il a étendu les bras. C'est tout ce dont je me souviens. Et puis il faisait presque jour et j'étais couché là quelque part dans le champ, l'endroit où nous sommes maintenant. Dans le champ, ma veste de pyjama mouillée par les larmes, car j'avais pleuré, je m'étais évanoui. Son visage avait des traits qu'aucun artiste ne pourrait dessiner ou peindre. Il ne pourrait pas le faire. Il avait l'apparence d'un homme dont le simple regard vous amènerait à pleurer par sympathie et avec respect, révérence, et en même temps avec assez de puissance pour renverser le monde s'il venait à parler. Et ces traits ne peuvent pas être saisis par un artiste. Et je n'ai jamais su jusqu'à aujourd'hui ce que cela signifiait. Mais me voici ce soir, 30 années plus tard, me tenant dans cette salle qui a été maintenant consacrée pour le service du Dieu Tout-Puissant. Et j'étais simplement un membre laïque, un ancien de l'église baptiste locale, dont Roy Davis était le pasteur en ce temps-là. Et je me tiens de nouveau ici, dans cet endroit comble, exactement sur le même terrain, avec ce que je pense être le rachat du sang de Jésus-Christ lui-même dans mes mains, pour apporter ce message du Seigneur pendant 4 jours. Juste 6 mois après cela, j'ai eu mon premier baptême ici dans le fleuve, lorsque la lumière est descendue, là, à Spring Street, comme beaucoup d'entre vous, voudraient peut-être y aller jeter un coup d'œil. Spring Street et l'eau là sur les berges du fleuve. Et c'est là que l'ange du Seigneur est apparu pour la première fois en public. Un après-midi à 2 heures. Et une voix est venue disant, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message précédera la seconde venue. Nous voici 30 ans plus tard et me voici ce soir proclamant toujours ce même message. Il a fait le tour du monde et je suis heureux de revenir dans ma ville pour représenter ce Seigneur Jésus-Christ que j'aime encore de tout mon cœur et chaque jour il devient plus doux que le jour avant. Je n'ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. La première chose avec laquelle j'ai commencé, je le crois toujours de la même manière ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, j'ai un message dont je suis responsable. La première fois que le message est sorti, bien sûr, tout le monde priait pour les malades. Il y a eu de grands signes, des prodiges et des miracles. Cela a commencé particulièrement parmi les pentecôtistes. Un réveil universel de campagne de guérison qui a balayé le monde pendant 15 bonnes années. Je crois qu'il y a eu des réveils sur chaque colline. Les feux du réveil qui brûlent. Littéralement, des millions ont accepté Christ comme leur sauveur par cette seule commission. C'est cela qui a inspiré Oral Roberts et d'autres. Et cela s'est propagé de plus en plus après le marasme mortel dans lequel l'Église pentecôtiste est alors tombée. Mon intention et mon désir ce soir, c'est de réveiller cette Église de nouveau pour la venue du Seigneur Jésus qui approche. Je dois la réprimander, je dois réprimander le péché sous quelque forme qu'il soit. Je ne vise pas la dénomination de personne. J'ai un message. Maintenant, il est difficile d'entrer dans une Église et d'y être sponsorisé, comme c'était le cas avec notre Seigneur Jésus, parce que c'est lui, ce n'est pas moi. Mais comme il a commencé à prêcher qu'il guérissait les malades, ressuscitait les morts, qu'il purifiait les lépreux, qu'il chassait les démons, tout le monde voulait de lui. Mais vient un moment où il y a un message qui suit toujours chaque signe, car le signe a une voix. Mais un jour, lorsqu'il s'est assis, il a dit, « Moi et mon Père, nous sommes un. » C'était plus qu'il ne pouvait supporter. Il en fut également ainsi quand il a dit, « À moins que vous ne mangiez la chair du Fils de l'homme et que vous ne buviez son sang, vous n'avez pas de vie en vous. » Eh bien, les docteurs et les gens bien pensants devaient dire, cet homme est un vampire humain, essayant de vous faire manger sa chair et boire son sang. Il ne l'a jamais expliqué, il l'a simplement dit. Et ce soir, vous pourriez entendre des choses qui seront simplement dites pendant la réunion, que nous ne serons peut-être pas à même d'expliquer, mais souvenez-vous, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous le croyons. Maintenant, nous n'avons pas le temps de trop parler parce que nous avons certaines heures pour commencer, certaines heures pour s'arrêter, et nous voulons honorer le conseil d'administration de l'Église, de l'école qui a mis ce moment à notre disposition. Nous ferons tout pour les honorer. Souvenez-vous, si à un moment quelconque, un pécheur veut venir à Christ, tout ce que vous avez à faire, c'est vous avancer immédiatement, que je sois en train de prêcher, de chanter, quoi que ce soit, donnez votre vie à Christ à ce moment même et retournez à votre siège. C'est pour cela que nous sommes là, pour vous aider. Je voudrais parler à frère Vail, frère Borders, et les frères ici. Je me demande s'ils ne pourraient pas avoir tenir à l'église pendant l'après-midi ou le matin un service d'instruction pour ceux qui recherchent le baptême du Saint-Esprit. Cela serait-il bien, frère Neville et vous tous qui pourriez venir, frère Caps? Si quelqu'un désire être instruit sur le baptême du Saint-Esprit, pourquoi ne viendriez-vous pas ici au tabernacle? Qu'est-ce qui serait le mieux, le matin ou l'après-midi? Le matin vers 10 heures. Si vous avez une question sur la doctrine, si vous avez une question sur le message, si on ne s'est jamais occupé de vous personnellement et que vous vouliez qu'on prie pour vous, ou si vous désirez connaître quelque chose de ce genre, pourquoi ne passez-vous pas là à 10 heures du matin pour voir ces hommes? Il y en aura un ou plusieurs d'entre eux là-bas pour instruire, prier pour les malades et répondre aux questions d'une manière personnelle. Venez simplement vers eux et ils seront heureux de vous aider par tous les moyens possibles. Maintenant, juste avant de nous approcher de la parole, nous désirons nous approcher à nouveau de l'auteur de la parole. Vous pourriez trop manger, vous pourriez trop boire, vous pourriez trop rire, vous pourriez trop marcher, mais vous ne prierez jamais trop. Je voudrais que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans doute ni colère. Prions. Cher Jésus, auteur de la parole de vie, et tu es cette parole. Nous nous approchons solennellement maintenant de toi, après que j'ai expliqué la vision dont tu m'as rendu témoignage qu'elle est véritable. Seigneur Jésus, je prie que tu oignes les paroles ce soir pour l'écoute de chaque oreille qui est sous le son divin. Et s'il y en a ici ou qui écoutent à travers la nation, qui ne sont pas prêts à cette heure pour répondre aux défis de l'heure, le message venant de Dieu, qu'ils se repentent et soient prêts, car le royaume de Dieu s'approche. Nous prions pour qu'il en soit ainsi ce soir avec eux, qu'ils répondent aux défis de cette heure. Ô Dieu, je désire prier pour demander de l'aide, connaissant la responsabilité et ce que cela signifie de devoir répondre au jour du jugement de tout ce que j'aurais dit ici et ailleurs. Aide-moi à être entièrement sincère, Seigneur, dans tout ce que je fais ou ce que je dis dans ta parole, afin qu'elle puisse porter du fruit. Car ta commission était que cette parole ne quitte pas ta bouche, mais médite-la jour et nuit, pour que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit dans la loi. Car alors, tu feras réussir tes voies, alors tu prospéreras, tu auras du succès. Ne t'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et sois très courageux, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Seigneur Jésus, accomplis-le ainsi ce soir. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Vendredi et samedi, de 10h à midi, au tabernacle à la 8e rue et à la rue Penn, il y aura des instructions et des réponses sur la doctrine, des prières pour les malades, et encore plus. Venez, si vous avez des questions, quel que soit votre besoin, il y aura quelqu'un pour s'en occuper. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, pour ce service d'ouverture ce soir, je ne peux rien faire d'autre que de l'introduire directement par notre message. C'est pour cela que nous sommes ici. Et c'est pour cela que je suis revenu. Dimanche matin, le Seigneur voulant, je désire relever ce grand défi du jour au sujet de mariage et divorce. Maintenant, Dans Galates 4, 27, je désire lire ces paroles, Galates 4, 27 à 31 inclus, car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Or nous, frères, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Mais comme alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, il en est de même maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Maintenant, je crois qu'ici j'ai pris un texte comme ceci, très curieux, inhabituel. Et quelquefois, nous trouvons Dieu à ces heures dans des manières ou des choses curieuses, inhabituelles. Parce que Dieu est inhabituel et ceux qui le servent réellement de tout leur cœur le servent d'une manière inhabituelle pour les choses ou les voies du monde. Ce texte est intitulé « La semence n'hérite pas avec la balle ». Paul parle ici de la semence littérale des deux fils d'Abraham. Paul se place lui-même joyeusement dans une position de naissance par la femme libre. Et nous savons qu'Abraham a eu deux fils par deux femmes différentes. Dieu lui a fait une promesse que par Sarah, il y aurait un fils qui naîtrait et que par ce fils, le monde serait béni. Toutes les nations seraient bénies par ce fils. Et on croit communément, particulièrement parmi les Juifs, que c'était Isaac. Mais non, ce fils promis d'Abraham, c'est Jésus. Et il est de la semence royale promise d'Abraham. Mais Abraham a eu deux fils, l'un par Hagar, qui était la servante de sa femme, une jolie et charmante servante égyptienne qu'Abraham avait prise là-bas en Égypte pour en faire la servante de sa femme. Et Sarah, pensant que Dieu ne serait pas capable d'accomplir sa promesse, elle dit à Abraham de prendre sa servante Hagar et de se marier avec elle. La polygamie était légale en ces jours-là. Pour avoir l'enfant, que c'était de cette façon que Dieu l'avait prévu, qu'elle ne devait avoir l'enfant que par Hagar. Mais nous découvrons qu'il n'en était pas ainsi. Nous comprenons aussi que Dieu est rendu parfait en trois. Dieu est rendu parfait en trois. La grâce est en cinq, l'accomplissement est en sept, comme le monde. Dieu est rendu parfait en Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la perfection de la divinité. Le tout formant un seul Dieu en trois manifestations, de trois attributs, d'une seule fonction, ou trois fonctions dans une seule divinité. Maintenant, il y a aussi trois dans la perfection des étapes de la grâce pour l'Église. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Cela consiste en la nouvelle naissance, juste le type de la naissance naturelle. Lorsqu'une femme donne naissance à un enfant, la première chose qui vient, c'est l'eau, ensuite le sang, puis la vie. La Bible dit dans 1 Jean 5, 7 ou 7, 5, je crois, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole qui était le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois sont un. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, la parole, l'eau, le sang et l'Esprit. L'eau, le sang et l'Esprit. Ces trois sont d'accord en un. Or, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Mais vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Vous pouvez être sanctifié sans être rempli du Saint-Esprit. Nous avons prouvé que c'était dans l'ordre de la nature. Je peux paraître étrange à beaucoup d'entre vous. Je suis sans instruction et je suis sûr que vous avez déjà compris. Mais j'enseigne en type, comme le naturel typifie le spirituel. Nous voyons qu'il y en a trois dans la perfection. Dieu est rendu parfait en trois. Maintenant, et il y a eu la perfection dans la semence d'Abraham qui fut Ismaël, Isaac, Jésus, Ismaël venant de l'esclave, Isaac venant de la femme libre, tous les deux par le sexe, mais Christ, Jésus, est venu par la Vierge. Pas par le sexe. Voici cette semence, une semence, pas des semences au pluriel, mais une seule semence. Les autres n'étaient pas la semence d'Abraham, parce que la semence d'Abraham, c'était sa semence de foi dont Dieu parlait, pas sa semence naturelle. Car après la mort de Sarah, Abraham s'est marié avec une autre femme et a eu 7 fils, sans compter les filles. Ainsi, ce n'était pas les semences d'Abraham, c'était la semence d'Abraham, une seule. Et c'était la semence de foi d'Abraham, annonçant la semence royale qui devait venir par la foi d'Abraham. Pas la vie naturelle d'Abraham, mais la vie spirituelle d'Abraham, qui prenait tout ce qui était contraire à la parole de Dieu et le considérait comme n'existant pas, et il croyait Dieu contre toute espérance, il croyait dans l'espérance. Voilà la véritable semence dont nous parlons. Ici, cependant, nous avons une image. La semence a commencé, la semence de la promesse a commencé avec un très léger doute de la promesse originale. Voyez-vous comment ça commence en bas? En doutant de la promesse originale. Dieu a promis à Abraham qu'il aurait cet enfant par Sarah. Mais observez maintenant, la première semence d'Abraham est venue par l'intermédiaire de l'esclave parce que Sarah a douté que ceci puisse arriver parce qu'elle était vieille et avait dépassé l'âge d'avoir des enfants. C'est ainsi que commence l'Église, c'est ainsi que ça commence toujours. Vous commencez, vous partez d'en bas, vous ne partez pas du sommet. Un homme qui essaierait de monter sur une échelle et qui essaierait d'aller d'abord en haut se casserait le cou. Vous devez commencer et construire en montant jusque-là. Et nous trouvons ici le commencement de la promesse de Dieu étant manifestée au travers d'un programme de Dieu interrompu à la suite d'un léger doute. C'est de la même façon que le péché a commencé dans le jardin d'Éden. C'est ainsi que la mort est venue par le péché, lorsqu'une seule parole de Dieu fut mal interprétée ou mise en doute. Vous ne pouvez pas mettre en doute ou mal placer une seule parole de Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur, que chaque parole soit ainsi. Et ici Sarah, elle, à qui la promesse, Sarah étant une femme qui est un type de l'Église, a douté du programme original de la parole promise de Dieu et a dit, « Toi, Abraham, mon mari, prends cette belle servante, vis avec elle et sois un mari pour elle. Et Dieu donnera cette semence de la promesse à travers elle et je prendrai l'enfant. » Voyez, le fait de contourner juste un petit iota a changé le programme entier. Par conséquent, nous devons prendre chaque parole de Dieu comme étant « ainsi dit le Seigneur ». Chaque parole de Dieu est vraie. Ici, la semence a commencé par une promesse qui fut légèrement mise en doute. Isaac étant la semence de la femme libre à qui la promesse avait été faite, engendra, comme Paul essaie de l'expliquer ici dans Galates, il engendra la semence promise naturelle. Et il continue en disant que les enfants de la femme esclave ne peuvent hériter avec les enfants de la femme libre parce qu'ils sont de deux catégories différentes. Et c'est vrai, l'incroyant ne peut pas hériter avec le croyant. Il n'y a aucun moyen du tout, et c'est là le problème aujourd'hui. Vous ne pouvez faire qu'un poulet dénominationnel croit avec un aigle. Vous ne pouvez simplement pas le faire. C'est là que le trouble vient. Vous devez croire chaque parole de Dieu. Vous n'héritez pas ensemble, pas plus que vous vous joindrez à lui. Vous ne pouvez pas le faire. Vous devez être un aigle ou un poulet. Il ne pouvait pas hériter avec Ismaël la semence de la femme esclave à cause du doute. Sarah a douté de la parole de Dieu, que Dieu était capable de l'accomplir. Et remarquez qu'Abraham, voyez sur quoi je construis ce dimanche matin, pour dimanche prochain. Abraham, non, n'a pas douté. C'est Sarah qui a douté. C'était elle. Ce n'est pas Adam qui a douté. C'est Ève qui a douté. Ainsi donc, nous allons découvrir davantage de choses lorsque nous en parlerons dimanche matin. Le spirituel ne peut pas, le naturel ne peut pas non plus hériter avec le spirituel. Pas plus, les enfants d'Ismaël ne peuvent hériter avec les enfants d'Isaac. Et pas plus, le charnel ne peut hériter avec le spirituel. Église naturelle, église spirituelle. Il y a une église naturelle dont ces femmes ici sont le type, et il y a aussi une église spirituelle. Ainsi, l'église naturelle et l'église spirituelle ne peuvent hériter ensemble. Elles ont chacune un moment différent et distinct. Ce sont deux peuples séparés, différents. Ce sont deux alliances séparées, différentes. C'est pourquoi l'enlèvement est différent. Et ce sera seulement pour la semence royale d'Abraham. Cela ne peut venir de la semence naturelle, charnelle de l'Église. Ce devrait être la semence royale de la parole de Dieu à travers Abraham, la semence royale. C'est pourquoi l'enlèvement doit avoir lieu en premier, parce que, souvenez-vous, nous, les vivants qui serons restés, nous ne devancerons pas ceux qui dorment, car la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux et rencontrerons le Seigneur dans les airs. Et remarquez, il est encore écrit, « Et le reste des morts ne revint pas à la vie pendant 1000 ans. » Ainsi, ils n'hériteront pas ensemble, ils ne seront pas ensemble dans l'enlèvement. Il y a absolument une église naturelle et une église spirituelle, une église charnelle et une église spirituelle. Vous voyez, il n'y a pas de jugement pour la semence royale spirituelle prédestinée d'Abraham. Parce qu'ils sont prédestinés à la vie éternelle. Ils ont accepté le sacrifice auquel Dieu a pourvu, et ce sacrifice est Christ, la parole. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Saint Jean 5, 24, si vous voulez le passage de l'Écriture. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Romains 8, 1. Ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et Jean 5, 24, celui qui entend ma parole, le mot signifie « comprend ». N'importe quel ivrogne peut l'entendre et ensuite s'en aller. Mais celui qui entend ma parole, comprend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et n'entrera pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Oui, monsieur. Celui qui comprend ce glorieux mystère du Dieu révélé, comment Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, comment lui et le Père étaient un, ainsi que les grands mystères de l'accomplissement de Dieu qui se présente lui-même manifesté dans l'âge des êtres humains, par le canal des êtres humains et en compagnie d'êtres humains pour manifester sa parole au jour du lever du soleil à l'est et faire la même chose alors que le soleil se couche à l'ouest pour se manifester dans une église épouse, la parole rendue manifeste. Celui qui comprend, c'est-à-dire savoir, celui à qui s'est révélé par celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La semence naturelle était seulement un transporteur, le véhicule de la semence spirituelle, comme la tige, l'aigrette et la balle. Nous en avons déjà parlé dans un autre message, mais j'aimerais le revoir un petit peu. Y revenir juste une minute. Maintenant ici, il y a trois étapes pour la semence qui nous montre la véritable image, les trois étapes de la semence naturelle sur la terre. Ainsi, lorsqu'une semence est plantée, elle produit une tige de laquelle sort des petites pousses, puis l'aigrette, ensuite le pollen s'attache à cela, et puis la balle, et enfin à nouveau la semence. Observez les étapes de cette parfaite parabole ici et comment elle a exactement développé le type, car Dieu est l'auteur de toute la nature. Par conséquent, la nature ne peut pas faillir, pas plus que Dieu ne peut faillir, parce qu'il était celui qui a placé les choses dans leur état pour que nous puissions les regarder et les voir. Remarquez, Agar, la tige qui fut la première partie du développement de la semence, elle ne ressemblait en rien à la semence. C'était la tige parce qu'elle était une femme esclave, pas du tout dans la promesse, n'est rien à voir avec la parole, juste un porteur de la semence. Remarquez, Sarah, l'aigrette qui avait le pollen, cette nation juive est née d'elle. De Sarah descendit Isaac, d'Isaac descendit Jacob, Jacob engendra les patriarches, et les patriarches engendrèrent une nation. Marie, la Vierge, la foi, produisit la véritable semence, parole spirituelle faite chair. Voyez, les trois femmes par qui cette semence a été transportée, l'une d'elles était en fait une adultère dans la polygamie. La seconde était une femme libre et la troisième n'eut pas du tout besoin d'avoir affaire au sexe, mais par la foi, elle crut la parole de Dieu. Agar, Sarah, Sarah et Agar, c'était toutes les deux par le sexe, mais Marie était vierge par la puissance d'une parole promise de Dieu. C'est vrai. La tige, Agar, deux épouses ont douté de la promesse. Mais observez ce que cela a produit lorsque Agar, la seconde femme d'Abraham, qui n'était seulement en fait qu'une concubine, mais elle a donné naissance à un homme. Quel genre d'homme était-ce? La Bible dit qu'il était un homme sauvage. Il vivait de son arc et personne ne pouvait le vaincre. Impossible de l'apprivoiser, de le convertir. Il était irrégénéré. On ne pouvait l'apprivoiser. C'était un homme sauvage parce qu'il venait du contraire de la parole de Dieu. Et tout ce qui est contraire, tout prédicateur, tout membre laïque, toute église qui est contraire à la parole de Dieu, produira un groupe adultère sauvage d'Hollywood mondain qui ne peut rester avec la parole non adultérée, sans mélange, parce que ce n'est même pas inclus dans la promesse. Non, Sarah, la véritable épouse de la promesse, l'aigrette produisit un homme ayant un esprit doux. En retour, il engendra une nation promise qui servait Dieu. Mais Marie, sans le sexe du tout, mais ayant cru la parole promise, quand elle était vierge, sans connaître d'homme, et l'ange du Seigneur l'a rencontrée, disant, « Je te salue, Marie, bénie sois-tu parmi les femmes, car Dieu est avec toi. » Et elle a dit, « Comment ces choses se produiront-elles ? » L'ange répondit, « Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. » Il n'en avait jamais été ainsi au cours des âges, mais Marie a cru Dieu. Elle a dit, « Voici la servante du Seigneur. » Elle crut la parole. Comment fit-elle pour la voir? Elle savait qu'Agar avait eu un bébé par un désir sexuel avec Abraham. Et Sarah a eu un bébé par un désir sexuel avec Abraham. Les enfants de la promesse, l'esclave, la femme libre. Mais ici, il lui est demandé de croire, de contribuer à la foi qui était en Abraham, qui croyait l'impossible. Aussi longtemps que Dieu a dit qu'il en serait ainsi, c'est parfait. Elle crut Dieu. Sans poser de questions, elle a dit, « Voici la servante du Seigneur. Peu importe combien de critiques je dois subir du monde, mais qu'il me soit fait selon ta parole. » Là est venue la semence authentique. Sarah n'avait pas pu le faire parce que c'était par le sexe. C'est vrai. Et Sarah non plus, car c'était le sexe. Pas plus que l'Église qui est dans le sectarisme. Il faut une croyance, une foi vierge dans la parole de Dieu pour faire qu'une promesse produise des enfants. Le sectarisme ne produira jamais une Église née de nouveau. Il ne peut pas le faire. Cela produira un substitut, produira quelque chose qui l'imite, quelque chose qui essaye de lui ressembler. Mais une Église de Dieu authentique, née de nouveau, croit à la parole de Dieu face à tout, quoi que ce soit, car elle n'est pas adultérée. Alléluia. C'est par la promesse de Dieu que ces choses viennent. Marie, la véritable personne, hors sexe, dit, « Qu'il me soit fait selon ta parole. Voici ta servante. » Et elle produisit. Que produisit-elle? Pas un homme sauvage. Pas une nation. Mais elle produisit la parole. Dieu lui-même manifesté dans la chair. Alléluia. La vraie semence de Dieu qui manifesta chaque promesse que Dieu fit dans la Bible. Sans lui, aucun homme ne peut vivre. Elle était la vraie semence. Elle était au-delà. Elle fut la balle qui produisit le grain. Maintenant, les deux autres furent des porteurs de vie, seulement comme la semence naturelle. Marie, rappelez-vous, j'ai dit que les deux autres, Marie, ne la faites pas Dieu comme des gens essayaient de le faire. Elle n'était pas un Dieu. Non, monsieur. Elle fut seulement un porteur de la semence, comme les autres l'ont été. Mais de même que la foi dans la parole fait avancer vers l'image réelle, c'est ainsi que le blé mûrit, il vient une tige, puis le pollen, puis vient la balle. Mais vous pensez, cette balle, si vous ne faites pas attention, elle ressemble exactement au véritable blé. Mais lorsqu'elle est ouverte, le véritable blé est à l'intérieur, c'est de nouveau seulement un porteur. Ainsi, vous voyez Marie, pas par le sexe, mais par la foi, quelque chose exactement comme cela. Marie n'était pas cette semence. Marie fut un porteur de la semence. Il était la semence authentique de foi. Parce que la parole de Dieu, c'est par la foi qu'il l'a donnée à Abraham. Et seule la foi peut produire ce que Dieu a dit qu'il ferait, la foi en sa parole. Remarquez, combien plus Marie fut comme la chose réelle, mais en tant que la balle étreint cette semence en elle-même, elle la protège et la nourrit jusqu'à ce qu'elle se trouve seule, mûre. Ainsi, ce troisième âge de l'Église de Pentecôte a retenu ce grain pour le faire mûrir jusqu'au moment où la balle s'ouvre. Marie, étant la mère de Christ, fut juste un incubateur. Il n'y avait pas de sang de Marie, il n'était pas de sang juif, il n'était pas de sang des nations, il était le sang de Dieu. Dieu a créé ce sang, ce ne pouvait pas être le sexe, il n'était ni juif ni des nations. Le bébé n'a pas une seule goutte du sang de sa mère, le sang vient du père. Nous savons que l'hémoglobine est dans le mâle, comme les poulets, ils peuvent avoir un œuf, une poule peut pondre un œuf, mais si elle n'est pas allée avec l'oiseau mâle, le coq, il n'éclora jamais. Il est non fertile, bien qu'il ressemble exactement à un véritable œuf fertile. Chaque élément paraît le même, mais il n'a pas de vie en lui. Il en est de même avec les gens qui confessent Christ. Beaucoup d'entre eux ressemblent à des chrétiens, essayent d'agir comme des chrétiens, mais vous devez avoir Christ à l'intérieur de vous, ce qui est la parole manifestée. Sinon, cela ne mûrira jamais jusqu'à devenir un vrai chrétien croyant en la Bible. Ce sera toujours quelque chose de dénominationnel. Il ne peut pas vivre parce qu'il n'a pas de vie en lui pour vivre. Un œuf ne peut éclore, il pourrit là dans le nid si la poule n'est pas allée avec l'oiseau mâle. C'est juste comme les membres d'une église. Vous pouvez les pouponner, en faire des diacres et tout le reste. Mais vous avez un nid plein d'œufs pourris tant qu'ils ne sont pas accouplés au mâle. La balle était un porteur, elle nourrissait la semence, c'est vrai. Alors, voici, la semence elle-même doit quitter la balle, ou la balle doit se retirer de la semence pour permettre à celle-ci de s'exposer au soleil et arriver à maturité. Nous voyons tout en type. Voyez ici maintenant combien elle est proche, l'Église de ces derniers jours se met à ressembler à la semence elle-même. Regardez comme cette dénomination de Pentecôte qui s'est levée dans les derniers jours, nous l'expliquerons un peu plus tard, comment ils arrivent presque à ressembler exactement à la semence. Lorsque la balle est sortie du brin d'herbe, du froment, après que le pollen soit tombé là, dans la seconde étape, et produit la troisième étape, qui est la balle. Et si vous n'êtes pas un observateur réellement attentif, vous ne serez jamais en mesure de dire si c'est le vrai grain de blé là-dedans. Quand ce premier petit grain arrive, il ressemble à un grain. Mais cueillez-le, ouvrez-le, et vous découvrez qu'il n'y a pas de grain là du tout. C'est simplement la balle, un porteur du grain. Le grain provient de cela. Mais souvenez-vous, il n'y a plus rien après cette balle. Souvenez-vous, il n'y a plus nulle part de semence promise à travers une femme après Marie. Il n'y a plus de dénomination promise après la Pentecôte. C'est l'épouse destinée à l'enlèvement qui sort de la semence, la parole manifestée de nouveau. Remarquez. Voyez combien cela paraît proche. Matthieu dit, Saint Matthieu 24, 24 a dit, que les deux esprits dans les derniers jours, l'esprit de l'Église, des gens d'Église,
Et l'esprit de l'épouse, des gens de l'épouse, serait si proche au point de séduire les élus même, si c'était possible. C'est proche à ce point-là. Regardez comment cela vient de la tige. Remarquez maintenant, nous allons typifier quelque chose ici. Luther, dans l'âge de l'Église, produisant la semence épouse, était le même en esprit. Juste un petit grain de semence sur lequel Luther s'est tenu. C'était la justification par la foi. Il était le type même d'Agar, la tige. Remarquez, Wesley fut le type de Sarah, Philadelphie, l'âge de l'amour, qui apporta l'aigrette. Dans l'âge de Wesley, il y eut plus de missionnaires que nous n'avons dans aucun autre âge. Le temps de John Wesley fut le grand âge missionnaire. Mais la Pentecôte représente Marie. Marie, la dernière étape. Or, elle n'était pas la semence. Cependant, la vie de la semence était en elle, mais elle n'était pas encore arrivée à maturité. Oh, je me sens très religieux. Elle n'était pas encore arrivée à maturité. Elle était là, mais elle n'était pas arrivée à maturité. Ainsi en est-il avec notre âge pentecôtiste dans lequel nous vivons. Il doit arriver une parole de Dieu qui est non-dénominationnelle, en dehors du domaine de cette dénomination. Luther s'est arrêté sur la première parole, le juste vivra par la foi. Wesley eut deux paroles, la sanctification, la seconde œuvre de grâce, bien déterminée. La Pentecôte eut la troisième parole, la restauration des dons. Mais la semence entière doit venir. Voyez comment, avec une seule parole, ils ont fait une dénomination, avec une autre parole et une autre parole. Mais il doit y avoir quelque chose qui ne peut servir à faire une dénomination. C'est la totalité de la vie qu'il y a dedans qui doit se manifester de nouveau dans une épouse. Il ne peut plus y avoir aucun âge de l'Église après ceci. Nous sommes à la fin, frères et sœurs. Nous y sommes, nous sommes arrivés. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Maintenant, nous voyons que ces choses sont tout ce qu'il y a de plus vrai. Alors, nous remarquons que si elle est l'aigrette, si Wesley est l'aigrette, alors la Pentecôte est la balle, ce qui est l'étape suivante de la venue du grain. Mes frères, sœurs, la tige n'est pas le grain. L'aigrette non plus n'est pas le grain. La balle n'est pas non plus le grain. Bien qu'à chaque fois, en mûrissant, cela ressemble davantage au grain. La tige ne ressemble pas au grain. Ensuite, que vient-il? L'aigrette, un petit bulbe, elle ressemble plus au grain que le brin d'herbe. Que vient-il après? La balle. Elle contient le grain, elle nourrit le grain. Regardons maintenant la promesse que Dieu a faite à Abraham. Ta semence, parlant spirituellement, n'importe lequel d'entre nous sait cela, il parlait de Christ et non d'Isaac, à travers sa semence de foi. Remarquez, la première vint par une esclave. Cela ne ressemblait en rien à la promesse. Dieu n'a pas besoin de revenir sur sa parole pour qui que ce soit. Dieu dit comment elle arriverait et c'est de cette façon qu'elle viendra. Mais Sarah, une représentation de l'Église, un type de l'Église, elle découvrit, elle dit, « Eh bien, je crois que c'est un peu trop phénoménal. Je ne peux tout simplement pas arriver à y croire. Aussi, va prendre Agar et prends-la pour femme. » Voyez-vous là, cette tige-là ne ressemblait pas du tout à la promesse. Mais quand ce fut le tour de Sarah, cela paraissait assez bien. Cela ressemble bien davantage à la promesse. Mais cependant, ce ne fut pas encore la promesse authentique parce que Israël, en Isaac, a failli et a renié la semence véritable lorsqu'elle est venue. Alléluia. Ne soyez pas excités, ne courez pas. Cela ne vous fera pas de mal. Il renia la semence, la crucifia et le pendit à la croix, comme Paul le disait ici. La semence de la femme esclave n'a-t-elle pas persécuté la semence de la femme libre? Et ainsi, la semence de la dénomination persécute le grain authentique. Il doit toujours en être ainsi. Ils n'hériteront pas ensemble. Ils ne sont pas associés ensemble. Ils sont absolument de deux promesses différentes, deux époques différentes, deux peuples tout à fait différents. L'un est l'épouse et l'autre une église. Pas de comparaison du tout entre elles. Mais cependant, elles ne sont pas la semence dont la venue était promise. Ni Sarah, ni Agar, ni Sarah, ni Marie ne furent la semence. Marie n'était pas la semence. Elle était un porteur, un véhicule de la semence. Elle l'avait nourrie, elle l'avait produit depuis son sein, exactement comme la balle produit la vraie semence de son sein. Mais la balle n'est pas la semence. Elle est tout près de la semence. Elle est bien serrée autour de la semence. Pour en revenir à la tige, la vie se diffuse tout le long de la tige. Et quand vient le pollen, elle se concentre. Mais lorsque vient la balle, elle est exactement comme si c'était la semence. Et sa forme est à peu près comme la semence. Jésus nous a dit que ce qui arriverait dans les derniers jours, que ce serait si près au point de séduire les élus eux-mêmes si c'était possible. Mais alors la semence provient de là et la balle, la vie quitte la balle et la balle est un porteur et c'est exactement ce qu'ont été nos dénominations des porteurs. Luther, Wesley, les pentecôtistes. Et maintenant, c'est le moment pour la semence d'apparaître. Remarquez, Marie n'était pas la semence. La balle, l'aigrette et la tige n'étaient que des porteurs d'une partie de la parole. Pas toute la parole. Luther eut la justification. Wesley eut la sanctification. Les pentecôtistes eurent la restauration des dons. Mais lorsque la parole vint, or, ils pouvaient produire cela, cette justification qui sauve un homme. Vous croyez cela? Certainement, c'est un porteur de la parole. De même que je crois que la tige est une partie du blé, certainement. Mais c'est un porteur. Elle n'est pas la vie. Ensuite est venue la sanctification. Combien croient la sanctification? Si vous croyez la Bible, vous devez y croire, certainement. Ainsi, ce n'est quand même pas, c'est un peu plus, deux mots de plus. Mais alors, vient la Pentecôte, la restauration des dons, le parler en langue. Ils l'ont appelé l'évidence initiale du Saint-Esprit. Et là, ils l'appellent cela l'évidence initiale. Qui a produit quoi? La balle. Mais ils en ont fait une dénomination. Mais quand vous commencez à dire, moi et mon Père, nous sommes un et ces autres choses, alors la balle se retire de cela. Mais la véritable Église épouse authentique produira l'entière parole de Dieu dans sa plénitude et sa force. Car il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Notez que dans le sein de Marie, il y avait la semence. Mais lorsque la semence fut mise au monde, elle a dit, « Je viens pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Moi et mon Père, nous sommes un. Si je ne fais pas ces œuvres, ne me croyez pas. » Voilà la semence. Lequel d'entre vous peut m'accuser d'incrédulité? Ce que la Bible avait promis que je ferais, je l'ai fait. Dieu l'a confirmé à travers moi, dit-il. Qui peut me dire maintenant la semence? Mais la semence en Marie, la balle était près d'être cela, mais elle ne l'était pas. C'était toujours en son sein. Remarquez, dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyen, il y eut la même chose à travers cet âge pentecôtiste. Maintenant, remarquez, mais à l'ouverture des sept sceaux, Apocalypse 10, la parole entière doit naître en manifestation à nouveau et confirmée par l'Esprit de Dieu dans toute sa force, comme elle le fut quand elle était ici sur la terre, manifestée de la même manière, faisant les mêmes choses qu'elle fit lorsqu'elle était ici sur la terre. Amen. Hébreux 13:8 dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans Saint Luc 17:30, Jésus dit, dans les derniers jours, comme il en était au jour de Sodome, de même le Fils de l'homme se révélera de nouveau. La même chose. Le monde est dans une condition sodomite et l'Église est entrée avec lui dans Sodome, comme l'ont fait Lot et sa femme. Et je dis qu'il y a une Église élue quelque part dans ce monde qui s'est retirée de ces choses et qui se tient à l'écart. Et la manifestation de Dieu a attiré son attention. Nous sommes dans les derniers jours. La balle a fait entrer sa force dans la semence. Elle est sortie à continuer. C'était une bonne balle, mais elle a fait son temps. Vous voyez, c'est l'épouse parole de l'époux parole. La semence naturelle d'Abraham, Isaac et Jacob, ou plutôt la semence naturelle d'Ismaël, la semence naturelle d'Isaac, et ainsi de suite, devait aller dans le sol pour produire cette autre semence, produire Jésus. Et ces autres doivent faire ainsi de même. Les semences doivent sécher. Je veux dire, les balles doivent sécher, le pollen doit sécher, et tout doit mourir pour que la semence puisse paraître. C'est de cette façon qu'il en était dans chaque âge. Les dénominations étaient les porteurs d'une partie de celle-ci. La parole en est une partie, car elle a été cachée aux sages réformateurs, scellée loin d'eux, jusqu'à l'âge où les aigles apparaissent. La Bible le dit. Oui, monsieur, parce que cela nous a été promis dans Malachie 4. Exactement. Il l'a caché aux yeux des sages et des intelligents. C'est alors que dernièrement nous avons parcouru le livre de l'Apocalypse et nous avons découvert que les trois messagers ou ces êtres vivants qui vinrent, chacun était tout à fait en rapport avec Luther, chacun ensemença exactement le suivant, qui est le bœuf et les différents êtres vivants de la Bible. Cela passa par la justification, la sanctification, même jusqu'au pentecôtiste. Mais le quatrième, c'était un aigle. C'est vrai. Et Dieu le suscita au cours de cet âge. Ainsi, il devait venir au cours de cet âge pour être correct. Oui, monsieur, la promesse de l'aigle de Malachie 4 étant accomplie. Jésus n'était pas de Marie, mais il est venu à travers Marie, comme la vie passe par la balle. Maintenant, beaucoup d'entre vous, chers frères ou sœurs catholiques, qui êtes ici ce soir, vous pensez peut-être que Marie était la mère de Dieu, comme vous le dites. Comment pouvait-elle être la mère de Dieu, alors que Dieu n'a ni commencement ni fin? Qui était le père de Dieu, alors, si elle était sa mère? Il était son créateur. Elle n'était pas son créateur. Il se créa lui-même dans le sein de Marie. Pas sa création à elle. C'est lui qui s'est créé lui-même. Il ne vint pas d'elle, mais elle vint de lui. C'est vrai. La Bible nous enseigne que toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait autrement que par lui. Ainsi, comment aurait-il pu avoir une mère alors qu'il était Dieu lui-même? Nous voyons ici maintenant la vraie révélation du vrai type. Il y eut trois femmes porteuses de la semence naturelle jusqu'à ce qu'elles mûrissent en Jésus. Ismaël ne pouvait pas l'être parce qu'il est né, comme nous dirions aujourd'hui, hors du lit conjugal, parce qu'il était le fils d'une femme esclave. Puis vint quelqu'un ressemblant un peu plus à Jésus, ce fut Isaac. Mais ce n'était pas encore cela, parce qu'il est né par le sexe entre Sarah et Abraham. Mais en continuant, vint Marie, qui, par la naissance virginale, produisit Jésus-Christ. C'est vrai, Dieu, la parole faite chair. Maintenant, regardez, il y a eu trois femmes. Trois femmes en type ici, des églises. Les femmes typifient toujours des églises, ce qui veut dire trois âges dénominationnels, des porteurs, qui doivent aussi mourir et sécher, tout comme la balle et ainsi de suite, pour préparer la place pour la semence. La semence ne peut mûrir tant que la balle, la tige et les feuilles ne soient pas toutes sèches, c'est vrai. Elles leur soutirent toute la vie qu'elles ont. Amen. Tout ce qu'il y avait en elle, plus. Sinon, elle ne peut pas y arriver. C'est maintenant le temps de la semence ou le temps de l'épouse. Les balles sont mortes, les balles ont séché. Le temps de la parole vierge est là, qui n'a pas été touchée. C'est une vierge, souvenez-vous. Un temps de parole vierge, si vous la mettez entre les mains d'une dénomination, il est certain qu'elle ne sera plus vierge. L'homme y aura touché avant que vous l'ayez. Mais l'Église de Dieu n'est pas touchée par la dénomination. Alléluia. C'est une parole de Dieu née d'une vierge qui est manifestée. Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Comme c'est merveilleux. J'aime cela. Je le crois. Je sais que c'est la vérité. Elle ne sera pas touchée. Il n'y aura pas de manipulation humaine dénominationnelle lors de la naissance virginale de l'épouse. Non, monsieur, elle a reçu l'ordre de Dieu de sortir de cette chose. Ne touchez pas à leurs choses impures. Ils deviennent des vautours. Cela me rappelle quelque chose alors que je venais de Phoenix l'autre jour, en retournant à Tucson après la réunion. L'Esprit de Dieu attira mon attention sur quelque chose. Alors que mon épouse et moi, nous étions en train de parler en roulant, les enfants étaient endormis à l'arrière de la voiture, il se faisait tard, il attira mon attention sur un faucon. Et j'observais ce faucon un petit peu, et je l'ai étudié. C'est le type même de l'Église aujourd'hui. Maintenant, pour autant que nous le sachions, le faucon a perdu son identification de sa création originale. C'est exact. Il était autrefois semblable à un aigle, son grand frère. Le faucon. Mais maintenant, il ne vole plus dans les cieux pour chasser sa manne céleste. Il s'est ramolli. Il ne vole plus dans les cieux. Il sautille simplement sur le sol comme un vautour. Il se tient sur un poteau téléphonique et saute de-ci, de-là, à la recherche de lapins morts. Le faucon n'a pas été fait pour cela. Non. Il a été fait pour être semblable à l'aigle. Maintenant, c'est exactement comme l'Église. Elle a été faite pour être semblable à l'aigle. Elle devait avoir sa place dans les lieux célestes, mais au lieu de cela, elle s'est ramollie. Il ne vole plus dans l'inconnu, dans l'azur. Non, monsieur. Elle dépend de ses règles modernes d'adoption, d'éducation, de théologie, de quelques dénominations faites de main d'homme, cherchant un tas de lapins morts, à moitié pourris ou autre chose. Il sautille sur le sol, c'est vrai. Un faucon. Et vous, ce que ça signifie? L'aigle n'a pas changé du tout. Il reste un aigle. Un faucon ne s'élève plus dans les cieux pour attraper sa manne fraîche là-haut. Mais il dépend de ce qu'il peut trouver qui est déjà mort. Un faucon n'est pas censé rester là par terre, mais observez un vieux faucon aujourd'hui. Suivez une route et vous verrez les fils téléphoniques couverts de faucons attendant de trouver quelque chose qui a été tué, quelque chose de pourri. Il fait comme s'il n'avait pas d'ailes suffisantes pour voler. Vous constaterez bientôt qu'il sera constamment sur le sol, maintenu à terre, parce qu'il s'est ramolli. Il ne se sert plus de la force que Dieu lui avait donnée. Son identification particulière était de planer dans les cieux et d'observer d'en haut. Mais maintenant, il est descendu. Il ne peut même plus lever les yeux. Sa pensée est centrée sur des lapins morts. Ce qu'il peut trouver sur la route, quelques moufettes, un opossum ou quelque chose qui aurait été écrasé. Il n'est pas un aigle, mais quelque chose qui lui ressemble. Exactement comme l'Église, qui dépend d'une nourriture morte, il y a bien des années, du temps de Luther, Wesley ou des pentecôtistes. Elle regarde en arrière vers des credos humains, au lieu de voler dans les lieux célestes de la parole, où toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Il a pris les habitudes des buses, ces choses mortes qui sont laissées pour les vautours, le monde. L'instruction et les choses comme cela ont été laissées pour le monde, pas pour l'Église. Il est si ramolli, sans vigueur, qu'il ne peut plus s'élever dans les cieux. Céleste, aride, où toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Il reste assis, dit, eh bien, docteur Huntel a dit que ma dénomination ne le croit pas de cette manière-là. Oh, vous, espèce de faucon perverti. Vous avez peur de prendre position sur les promesses de Dieu. Vous dites, eh bien, le temps des miracles est passé. Vous êtes mou. Vous avez peur d'utiliser vos ailes et de voler là. Êtes-vous devenu trop mou pour une réunion de prière? Êtes-vous arrivé au point d'avoir peur de rester plus de 10 minutes à l'hôtel? Vous sautiez comme un vautour qui mange de la charogne morte sur le sol. Oui, monsieur. Le faucon est trop mou pour pouvoir encore supporter ce qui est aride. Il saute comme un vautour et mange de la nourriture de vautour. Voilà ce que c'est vrai. Au point qu'il commence à ressembler à un vautour, il agit comme un vautour. Il n'a plus rien d'un faucon. Il est plus un vautour qu'un faucon. Un faucon est censé planer, non pas se tenir sur un poteau téléphonique et guetter un lapin mort pour ensuite aller là-bas, sauter de ci, de là, sur la route, comme un vautour. C'est à peu près la façon de l'Église aujourd'hui. À quoi bon monter là-haut et voler alentour alors que je peux avoir des lapins ici? Mais ils sont morts! Ils sont pourris! Ils sont contaminés! Autrefois, ils étaient bons! Ainsi en est-il de la doctrine des luthériens, de Wesley, des pentecôtistes. Pourquoi mangez-vous comme un vautour? Il y avait de la manne fraîche qui tombait des cieux chaque nuit pour les enfants d'Israël. Lorsqu'ils voyageaient, tout ce qui était laissé était contaminé. Nous avions l'habitude de dire dans notre endroit, c'est plein de vermine. Il y a trop de vermine dans nos expériences aujourd'hui. Nos religions sont basées sur ce que quelqu'un d'autre a dit. Quelqu'un d'autre a dit. Et que la promesse est pour un autre âge. Un homme est venu me voir il n'y a pas longtemps, un prédicateur baptiste, il est venu chez moi pour me dire, vous savez, je vais vous simplement vous corriger sur quelque chose. Je lui ai dit sur quoi? Il a dit, vous essayez d'enseigner que dans cet âge-ci, une doctrine apostolique, l'âge apostolique est terminé. J'ai dit quand? Je vous dirai lorsqu'il a commencé, vous me direz lorsqu'il s'est arrêté. Vous croyez la parole? Il a dit oui. J'ai dit, très bien. Maintenant, vous croyez que l'âge apostolique a commencé le jour de la Pentecôte? Il a dit oui. J'ai dit, alors celui qui parlait, l'apôtre Pierre, il a dit ces paroles. Et souvenez-vous, Jésus a dit, celui qui en retranchera un mot ou y ajoutera une parole, sa part sera retranchée du livre de vie. C'est pour un prédicateur ou quiconque a son nom dans le livre. J'ai dit, Pierre a dit, repentez-vous chacun d'entre vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Alors, quand est-ce que ça s'est terminé? Nous y sommes encore. C'est une bande de faucons qui se sont transformés en buses et sautillent autour d'une carcasse morte qu'un autre âge a tué pour eux. C'est vrai. Plus de la manne fraîche qui vient des cieux. Ils n'en veulent pas. Ils ne peuvent pas avoir de réunion de prière. Ils ne sont pas des aigles pour commencer. Mous, pas vigoureux. Ils sautillent simplement là aux alentours. Nos dénominations modernes sont ainsi. Elles s'appuient sur l'enseignement d'une théologie humaine qui essaye d'expliquer, de se débarrasser par des explications ces choses. Et ils acceptent cela. Ils ne veulent pas prendre la parole qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ils ne veulent pas prendre Malachi 4. Ils ne veulent pas prendre toutes les autres promesses concernant ce jour-ci et qui disent combien l'âge de l'Église, comme le prophète l'a dit, il y aura de la lumière au temps du soir. Ils ne prennent pas ceci. Ils veulent sautiller autour de ce que quelques organisations pentecôtistes a tué il y a 100 ans et manger de la manne à moitié pourrie. C'est vrai. Remarquez, l'Église est si charnelle. Elle se nourrit d'une charogne mondaine, des choses mortes du monde exactement comme le fait le vautour. La politique dans l'Église, ils ne laissent pas le Saint-Esprit envoyer un homme vers une Église. Ils doivent avoir une politique et voir si la dénomination va le recevoir ou pas. C'est vrai, ils aiment le monde, ils s'habillent comme le monde, ressemblent au monde, ils agissent comme le monde, ils sont des vautours comme le monde, ils sont paresseux, mous, font des compromis. Comme c'est ça, un point c'est tout. Avez-vous déjà vu un aigle faire des compromis? Non, monsieur! Il n'y a pas de compromis en lui. Et c'est pareil pour un chrétien authentique, il n'est pas mou. Il va chasser jusqu'à ce qu'il trouve. Amen. Oui, monsieur, il trouvera sa nourriture. Il veut de la manne fraîche. Il va descendre et creuser jusqu'à ce qu'il la trouve. Il va voler de plus en plus haut. Si ce n'est pas dans cette vallée, il s'élèvera un peu plus haut. Plus vous allez, oh, mieux vous allez voir. Ainsi, il est temps pour que les aigles de ce jour volent plus haut, et creusent dans les promesses de Dieu. Et pas vivre de la nourriture de vautours qui a été tuée il y a des années. Sortez de là. La politique, voter pour ou contre, dire ceci, cela ou autre chose, et le Saint-Esprit n'a plus le droit de citer dans l'Église. Plus de réunions de prière, plus agoniser avec Dieu pour qu'il accomplisse sa parole, plus croire que la parole est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Ils ont simplement dégénéré en vautours, sont devenus une dénomination, ils ont mis leur nom dans le livre et sont devenus paresseux et mous. Ils se tiennent là-bas en savourant une sorte de charogne morte, alors qu'ils devraient être au moins des faucons qui sont des frères semblables à l'aigle. Le prophète qui apportait la véritable parole de Dieu l'a manifesté. Et il se base sur une théologie humaine à moitié pourrie. Où est-ce que cela mène? Dans quelques programmes humains d'école du dimanche, quand l'éducateur a tué pour eux là-bas, dans un séminaire, leur disant que le temps des miracles est passé, le baptême du Saint-Esprit n'existe pas, et tout ceci est du non-sens. Vous voulez me dire qu'un aigle mangerait ça? Il ne le peut pas. Non, monsieur, pas plus qu'un chrétien ne mangera de cette charogne morte des vieilles doctrines dénominationnelles. Il veut la parole de Dieu fraîche, la promesse de l'heure. Dieu a promis des lapins au temps de Luther. Il a promis d'autres choses dans d'autres temps. Mais maintenant, il nous a promis un repas complet. Le menu complet en 7 plats. Avec tous les 7 seaux ouverts et tout prêt pour la parole de Dieu. Pour ceux qui peuvent recevoir. Alléluia. Des faucons qui sautillent là comme des buses. Oh là là. Pensez-y, combien l'heure est critique. Autant le faucon a perdu depuis longtemps son identification de faucon, de même l'Église a perdu depuis longtemps son identification de petit frère de l'aigle, le prophète de Dieu, autrefois porteur d'une vraie parole, la justification, puis il devint porteur de la sanctification, puis il devint porteur du baptême, du Saint-Esprit, la restauration des dons. Mais alors, quand elle va chercher à revenir, constamment manger de la manne d'un autre jour, c'est pourri, ce n'est pas bon. Un aigle authentique de ce jour sait que c'était très bien, mais nous avons reçu cela plus, au point que Jésus-Christ est manifesté dans la plénitude de sa puissance, comme il avait promis pour ses derniers jours. Elle est maintenant une balle sèche, c'est passé. L'Esprit de Dieu est passé à travers elle, c'est vrai. Et elle n'héritera pas avec la parole semence confirmée. Elle n'héritera certainement pas. Elle ne sera pas dans l'enlèvement. Elle sera un membre d'Église. Elle pourra venir dans la seconde résurrection et sera jugée selon ce qu'elle aura entendu. Si vous êtes ici ce soir juste un membre d'Église, quel sera votre jugement quand nous devrons tous nous tenir là et témoigner que vous avez entendu la vérité? Elle ne vole plus dans l'azur, dans l'inconnu, dans le surnaturel, où il y a la puissance, les hauteurs des promesses de la parole éternelle de Dieu qui a rendu toute chose possible pour ceux qui croient. Elle ne veut pas croire cela. Elle retombe directement sur les fils téléphoniques et elle dit, ma dénomination dit que les lapins font l'affaire. Bien qu'il y ait des asticots, c'est très bien quand même, voyez. Elle se base là-dessus. La Pentecôte est comme sa sœur vautour dénominationnelle, occupant maintenant des sièges au grand conseil des impies, certainement, écoutant leurs dirigeants politiques mondains qui la nourrissent de la nourriture de vautours, de lapins morts et de quelque chose qui est passé depuis 50 ans. Voilà l'état de l'Église pentecôtiste. Oh là là. De même que Sarah a essayé d'accomplir la promesse du surnaturel en choisissant Agar. De même, l'Église essaye de provoquer un réveil. Nos grands évangélistes annoncent à travers les pays aujourd'hui un réveil dans notre temps, un réveil dans notre temps. Vous tous, méthodistes, baptistes, pentecôtistes, rassemblez-vous tous. Comment pouvez-vous avoir un réveil de manne fraîche sur un vieux vautour mort? Comment pouvez-vous l'avoir? Un réveil dans notre temps. Le réveil sera si petit qu'ils ne sauront jamais qu'il s'est produit. Les pentecôtistes disaient, « Oh, une grande chose est arrivée. » Et c'est arrivé, ils ne le savent même pas. C'est ça, vous voyez? Oui, monsieur. Car là où est la carcasse, là s'assembleront les aigles. C'est ce qu'il est dit. Qu'est-ce que la carcasse? La parole. Il est la parole. La carcasse. Christ. Christ en vous. Le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Combien c'est vrai. Sarah, essayant de faire que les promesses s'accomplissent. Comme l'Église aujourd'hui, un grand réveil dans notre temps. Par quoi? Par une promesse pervertie. Comment allez-vous le faire alors que Dieu n'a jamais béni les organisations? Il n'a jamais utilisé une organisation. Lorsqu'un message est venu et qu'ils se sont organisés, c'est mort à ce moment-là. Et je défie n'importe quel historien de me montrer où il s'est relevé. Il est mort à ce moment-là, il est resté là. Dieu est sorti tout droit de ce porteur pour entrer dans un autre, sortant des luthériens pour entrer dans les méthodistes, sortant des méthodistes pour entrer dans les pentecôtistes. Maintenant, il est sorti des pentecôtistes pour entrer dans la semence, parce que ce devait être la semence. Vous ne pouvez pas battre la nature. Pour elle, il n'y a rien d'autre que la semence qui puisse arriver. Ainsi, la semence se reproduira, car il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. La même colonne de feu montrant les mêmes signes, la même puissance, le même Dieu, les mêmes miracles, les mêmes choses, confirmant exactement la parole et la Bible. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous conduit ce soir. Oh Dieu, aide-nous à le voir et à le croire, certainement. Vous voyez, Sarah, l'Église qui a choisi Agar. Ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Non. Son groupe trié sur le volet ne marchera pas non plus aujourd'hui. Les docteurs, docteurs en philosophie, en théologie, tous les porteurs ont échoué. Luther n'y est pas arrivé, Agar non plus. Qu'est-ce que Agar a fait? Agar a donné son fils à un autre saint pour élever son enfant. Pour élever son enfant. Agar a fait cela. Elle a donné son fils unique, au sein d'une autre femme. Pas sa mère, pour l'élever. C'est la même chose que fit Luther lorsqu'il a donné son fils, la justification, à une dénomination pour qu'elle en fasse ce qu'elle veut, exactement, pour l'élever. Wesley a échoué de la même manière que Sarah, doutant que la naissance surnaturelle était le baptême du Saint-Esprit, comme Sarah le fit sous le chêne. Quand Wesley fut introduit au surnaturel, lorsque vint l'âge pentecôtiste et que Wesley fit connaissance du parler en langue, tout ceci, ils en rirent et s'en moquèrent. Vous tous, Église de Christ, soi-disant, et vous, baptistes et presbytériens, chacun d'entre vous, vous avez fait un pied de nez et vous en êtes détourné. C'est vrai. Qu'avez-vous fait? Wesley, vous avez vendu votre enfant à une organisation. Et il est mort. C'est exactement vrai. Mais la parole, la vraie parole, a continué sa marche. Elle n'est pas restée dans cette organisation. Elle se déplaça dans la Pentecôte et prit avec elle quelques éléments de plus. C'était un fils plus mûr, comme la semence qui tomba dans le sein. Après un certain temps, la colonne vertébrale se forma, puis il y eut des poumons, une tête, des pieds. Ensuite, après un certain temps, le moment de la naissance est arrivé, c'est vrai. Ainsi, c'est comme cela que l'Église a mûri, de la même manière. Wesley a douté, exactement comme le fit Sarah sous l'arbre. Elle a dit, lorsque l'ange du Seigneur, un homme habillé comme un ange, Dieu c'était lui-même, Elohim, habillé comme un homme qui se tenait là avec de la poussière sur ses vêtements et qui leur donna la promesse, alors que Sarah avait 90 ans et Abraham 100 ans. Et Sarah, elle rit sous cap et elle a dit, comment cela pourrait-il alors que Abraham et moi, eh bien, comme les jeunes, nous n'avons plus eu de relation depuis des années. Et elle avait presque 100 ans, elle dit, et moi avoir du plaisir avec mon Seigneur alors que je suis vieille et lui aussi, et son courant de vie est mort et mon sein est desséché, ma poitrine n'est plus, les veines lactifères ont disparu, comment pourrais-je la voir? Mais Dieu a dit, je l'ai promis, il viendra de toute façon. Wesley fait de même. Comment pouvons-nous accepter ces parler en langue, la guérison divine et ces choses? Ce n'est pas pour nous en ce jour. Dieu a dit, j'ai promis que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il a promis de le faire. Et il est allé de l'avant et il l'a fait de toute manière. Et l'église wesleyenne, avec toutes ses petites sœurs, sont même pollen, padistes, presbytériennes, l'église de Christ nazaréen, pèlerins de la sainteté, les frères unis, et d'autres encore, moururent avec elle. Et l'église continua d'avancer. Maintenant, que fit la Pentecôte? Elle s'est organisée, juste comme la balle. Elle a fait la même chose. Elle s'est organisée. Elle s'est mise elle-même au rang de la balle, c'est vrai. La Pentecôte fut comme Marie. Regardez comment fit Marie à la fête de la Pentecôte. Qu'est-ce que Marie a fait de faux? Une fois au cours de la fête de la Pentecôte, elle fut confrontée à un groupe de dignitaires, de prêtres. Quand son fils, elle ne pouvait le trouver nulle part. Elle dut revenir sur ses pas après 3 jours de marche. Elle avait quitté, comme l'église moderne d'aujourd'hui. L'église l'a quitté depuis environ 3 fois 25, depuis 50, 75 ans. Elle le laissa à la fête de la Pentecôte. Marie revint avec Joseph et ils le cherchèrent pendant 3 jours. Elle l'avait cherché sans pouvoir le trouver. Mais finalement, elle le trouva. Où l'a-t-elle trouvé? Elle l'a trouvé dans le temple, discutant de la parole de Dieu avec les prêtres. Et juste devant ces prêtres, ces dignitaires. Alléluia. Marie laissa tomber le rideau. Elle fit exactement ce qu'elle n'aurait pas dû faire. L'appeler Dieu, la mère de Dieu. Une mère devrait avoir plus de sagesse que son fils. Et elle dit, « Ton père et moi t'avons cherché nuit et jour avec larmes. Ton père et moi, prétendant que la naissance n'était pas surnaturelle, que Joseph était le père de Jésus. » Elle reniait la naissance surnaturelle. La Pentecôte prit le parler en langue. Ils renièrent la naissance de la parole. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils en prendront une partie, mais laisseront l'autre. La Pentecôte a renié la naissance de la parole comme Marie l'a fait, mais observez. Il n'y aura plus d'organisation après ceci. Observez la parole elle-même, âgée seulement de 12 ans. Simplement une toute petite chose qui se trouvait là, dans la balle. Il a dit, « Ne sais-tu pas que je dois m'occuper aux affaires de mon père ?» La parole a corrigé l'Église juste là. Pourquoi fais-tu toutes ces choses? Tu sais que tu ne peux pas faire ceci. Nous fermerons nos portes, nous ne te laisserons pas entrer. Car ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? Certainement, certainement. Le véritable charme surnaturel prétendit simplement qu'il était le fils de Joseph, un simple homme, ou comme le fit la Pentecôte, qu'il était un parmi trois. Oh, je sais que ça blesse. Un parmi trois, mais il était tous les trois en un. Mais les pentecôtistes, oh oui, il est le fils du Père, du Saint-Esprit. Oh là là. Mais la véritable parole parle sans détour et dit, il n'y en a pas trois, mais il n'y en a qu'un. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu? Ça n'en fait pas trois, mais un. Remarquez, il n'y aura plus de porteurs d'église mère, de dénomination, après cette balle porteuse, parce qu'après la balle, il n'y a plus, à ce moment-là, il ne reste plus rien que le grain. Est-ce vrai? Il faut que ce soit le grain, ce doit être la même sorte que ce qui est entré dans le sol. Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Un esprit vient sur l'épouse pour faire les mêmes choses qu'il a faites. Voyez, c'est la nouvelle reproduction du grain. La parole, même jeune, a parlé pour elle-même. Et tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Voilà le secret du message. Exactement. Les affaires du Père. Que sont les affaires du Père? Pourriez-vous penser à ce qu'étaient les affaires du Père pour lui? Accomplir ce qu'Ésaïe avait dit. Une vierge concevra. Accomplir Ésaïe encore. Le boiteux bondira comme un cerf. Et toutes ces choses qui devaient se produire, comme dit Moïse, le Seigneur votre Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi. C'était les affaires du Père d'accomplir cette parole-là. Eh bien, si cela est arrivé au travers des tiges de cette femme naturelle, qu'en est-il des tiges de ces femmes églises spirituelles? Les églises représentent des femmes, ou plutôt les femmes représentent des églises, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est maintenant? Nous devons nous occuper des affaires du Père, crierait le froment, le grain. Oui, monsieur, qu'est-ce que ça doit faire? Confirmer. Malachie 4. Confirmer. Luc 17, 30. Confirmer. Hébreux 13, 8. Confirmer. Jean 14, 12. Confirmer la totalité de sa parole. Confirmer Hébreu. Je veux dire, Apocalypse chapitre 10, l'ouverture des 7 sceaux et les mystères de Dieu, même jusqu'à la semence du serpent, et que tout serait manifesté, mariage et divorce, et tous ces autres mystères qui avaient été cachés sous les piliers pendant toutes ces années, aux théologiens et ainsi de suite. Mais maintenant, c'est l'heure. Voilà les affaires du Père. Vous pensez qu'ils le recevraient? Ils veulent être revêtus de dignité et disent, notre dénomination n'enseigne pas cela. Mais la Bible le fait. C'est vrai, Dieu prouve que c'est vrai. Assurément, c'est cela. accomplissant cet âge dans lequel les sept sceaux prouvent simplement que les dénominations ont juste été des porteurs. C'est un autre aspect des affaires du Père. Prouvez. Et les affaires du Père maintenant, c'est de vous montrer que ces dénominations ne sont pas siennes. Ce sont des systèmes humains qui renient la parole. C'est vrai. Remarquez, vous dites, « Quoi, Marie, la grande Vierge, à la croix, il ne l'a jamais appelée mère. Il l'a appelée femme, un porteur, pas une mère. » C'est vrai, elle fut le porteur de la parole, mais elle n'était pas la parole. Il était la parole. Oh oui, notez aussi, elle ne fut pas identifiée avec lui dans la résurrection. Il est mort et ressuscité parce qu'il était la parole. Elle fut juste un porteur. Elle mourut et toujours dans la tombe. C'est vrai. Ainsi, elle fut juste un porteur, pas sa mère, pas Dieu. Elle fut juste un porteur comme sont les églises, c'est vrai. Cela montre qu'elle fut simplement un porteur, pas la parole. Terminons en disant ceci. Oh, faucon pentecôtiste, en train de sauter de ci, de là comme des vautours, prenant part au monde comme le fait le reste d'entre eux, ayant une forme de piété suffisamment pour séduire les élus même si c'était possible, mais reniant ce qui en fait la force, comme le prophète le dit ici, un parfait exemple de ce que la parole de Dieu prédit dans les derniers jours, une église de l'âge de Laodicée, nu, aveugle, misérable, pauvre, malheureuse, et ne le sachant pas, prétendant qu'elle est grande et riche, n'ayant besoin de rien, et ne sachant pas qu'elle a été changée d'un faucon, un frère semblable au prophète pour préserver l'intégrité de la parole de Dieu, elle a été changée en vautour, nourrissant ces gens de lapins ecclésiastiques morts. C'est exactement la vérité. Réveillez-vous! Oh là là! Comment pouvez-vous vous attendre à être identifié ou héritier avec les aigles? Quand il y a de telles choses, dans cette grande heure où l'enlèvement est proche, ô chrétien, ô croyant, si vous avez été un croyant partiel, continuez à assister aux réunions pour quelque temps, voulez-vous. Je crois que nous avons quelque chose ici que le Seigneur désire vous faire connaître. Il est tard, je ne peux pas aller plus loin, je dois m'arrêter, peut-être finir demain soir. Mais regardez, inclinons la tête juste un moment. Je ne veux pas que vous remarquiez quelle grammaire j'utilise, mais je désire que vous preniez garde juste un moment à ce que j'ai dit. C'est assez clair pour que vous le compreniez, j'en suis sûr, si vous le désirez. Si vous êtes ici ce soir et que vous n'avez pas cette expérience, je ne dis pas, vous dites, j'ai dansé dans l'esprit, sauté tout autour. Oui, les faucons font la même chose. C'est comme les corbeaux et les vautours. Je ne demande pas cela. Que mangez-vous? Où allez-vous chercher votre repas quotidien? De quoi vous nourrissez-vous? De la parole de Dieu ou de quelques vieilles charognes qui a été utilisée là-bas il y a des années? Votre expérience est-elle faite ce soir de quelque chose que vous avez pris il y a plusieurs années, ou bien est-ce frais et nouveau ce soir, une nouvelle manne qui vient juste de tomber du ciel dont vous nourrissez votre âme? En attendant, demain pour quelque chose de bon et de meilleur. Si vous n'êtes pas ainsi maintenant, levez la main, les yeux fermés. Pas vers moi, mais vers Dieu. Voulez-vous lever la main en témoignage et dites, « Oh Dieu, conditionne mon âme et mon esprit pour que je puisse me nourrir uniquement de la parole de Dieu. » Voudriez-vous simplement lever la main et dire, « Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. » Je ne sais pas exactement combien de personnes ici, je ne sais pas bien évaluer, mais je dirais qu'un tiers ou plus ont levé la main, voulant que leur âme soit conditionnée. Souvenons-nous dans la prière maintenant alors que nous courbons la tête, « Cher Dieu, je suis seulement responsable de dire la parole. » Et par ces simples petites paraboles, des petits types, les gens voient que l'un n'héritera pas avec l'autre. Et nous savons que dans les derniers jours, il va y avoir des gens qui vont être enlevés dans les cieux. Et certains d'entre eux seront ici quand Jésus viendra. Et nous nous attendons à ce qu'ils viennent, même ce soir. Et je pense qu'il y a 30 ans, à peu près 30 ou 33 ans, j'étais agenouillé ici peut-être à ce moment de la nuit, aux alentours de 9h30 ou 10h, priant pour un père qui était perdu. Ce soir, Seigneur, je prie pour de nombreux pères, de nombreuses mères, des frères et des sœurs. Ne ferais-tu pas miséricorde du bien-aimé? Il est maintenant trop tard pour mon père de faire quelque chose à ce sujet. Il est passé au-delà des frontières de cette vie. Et bientôt, Seigneur, nous passerons tous par ce chemin. Je dois moi aussi emprunter ce chemin. Chaque homme, chaque femme, jeune homme ou jeune fille ici doit emprunter ce chemin. Et nous serons responsables de ce que nous faisons de la parole de Dieu. Combien cet homme paraissait petit à côté de David lorsqu'il cracha sur lui. Combien ces gens qui crachèrent sur Jésus, la parole, ceux qui le percèrent seront petits quand il reviendra. Combien petits se sentiront les gens qui pouvaient s'en aller d'ici après avoir vu, non pas dans quelques grands termes grecs et ainsi de suite, mais dans la nature elle-même qui nous parle de Dieu le Créateur, pouvant voir les porteurs de la parole et la parole elle-même et connaître l'heure à laquelle nous vivons, et que c'est maintenant le temps de la moisson. Dieu bien-aimé, ne nous laisse pas nous détourner de ceci pour quelque folie du monde, mais laisse-nous le recevoir ce soir de tout notre cœur. Seigneur, crée en moi un bon esprit, l'esprit de vie, afin que je puisse croire toutes tes paroles, accepter Jésus la parole, le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et croire aujourd'hui à la partie qui a été donnée pour cette tâche-ci. Accorde-le, Seigneur, je le demande dans le nom de Jésus. Et maintenant, je vais demander à chacun d'entre vous, alors que vous êtes ici, pensant très sincèrement à ceci, nous n'avons pas d'église pour que vous vous y joigniez. Nous avons un bassin là pour y être baptisés. Tous ceux qui crurent furent baptisés. Si vous n'avez jamais été baptisé maintenant du baptême chrétien, ceci ne veut pas dire asperger ou faire couler de l'eau, ça veut dire par immersion, non pas dans un titre de Père, Fils, Saint-Esprit, mais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, comme l'Église entière fut baptisée jusqu'à ce que l'Église catholique introduisit en 303 trois dieux et trois formes de baptême dans des titres trinitaires. Si vous n'avez pas encore eu cela, venez demain matin à 10h. Il y a des vêtements, des robes, tout ce qu'il faut qui vous attendent là-bas. Ne voulez-vous pas venir vous joindre à Jésus-Christ? Non, pas à nous. Nous n'avons pas même une église ici pour prendre soin de vous. Allez à l'église de votre choix, d'où que vous veniez. Mais s'il vous plaît, croyez cette parole. La croyez-vous? Dites Amen. Que Dieu vous bénisse. S'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour vous aider, nous sommes ici pour le faire. Maintenant, je sais qu'il y a des malades ici. Notre temps s'est écoulé ce soir pour avoir une ligne de prière. Peut-être pourrons-nous quand même la voir. Je désire que chacun d'entre vous, vous posiez les mains sur quelqu'un à côté de vous. Et sans aucun doute, vous posez vos mains sur un aigle. Peut-être un aigle qui avait mangé de la nourriture de vautours quelque part et qui en est dégoûté, il en est malade, ils n'en veulent plus. Ils veulent en sortir. Ils sont malades, dégoûtés, ils en ont assez, ils sont ici ce soir et voient ce que les aigles peuvent réellement manger. La parole et avoir un Christ vivant parmi eux se montrant vivant le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ils ne veulent pas hériter avec la balle. Elle doit être brûlée. Toute la paille doit être brûlée. La moissonneuse vient pour battre le blé et le séparer. Vous voulez être du blé. Il y en a quelques-uns qui sont malades, certains physiquement. Je désire que vous priez pour votre frère, sœur, aigle là, alors que je prie pour vous ici. Puisse l'Esprit de Dieu venir sur vous. Souvenez-vous, je vous donne la nourriture de l'aigle, la promesse de Dieu. Il appelle ses prophètes des aigles. Il s'appelle lui-même un aigle. Il est l'aigle, Jéhovah. Et pendant que vous avez les mains posées sur quelqu'un, priez pour lui. Notre Père Céleste, ta parole dit que la dernière commission que tu as donnée à ton Église fut « Allez dans le monde entier, prêcher l'Évangile ». Ce sont les ordres généraux. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Ces signes suivront ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. S'ils saisissent des serpents, ils ne leur feront point de mal. Et s'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Ô aigle Jéhovah, nourris tes petits ce soir avec cette parole, Seigneur. Ils en ont besoin. C'est le repas dont ils ont besoin. C'est ce dont ils ont besoin, connaître ce qu'est la nourriture, ce qu'est le « ainsi dit le Seigneur ». Tu as promis que s'ils imposaient les mains les uns aux autres, qu'ils seraient guéris. Ô Seigneur Dieu, enlève maintenant de nous tout doute et toute pensée de vautour. Nous nous nourrissons solennellement de la nourriture de l'aigle, de la parole de Dieu, que tout esprit impur qui est dans ces gens, tout esprit de doute, tout esprit de crainte, toute prétention dénominationnelle, toute habitude, toute maladie, toute affection parmi le peuple, que cela parte dans le nom de Jésus-Christ, que cela sorte de ce groupe de gens, qu'ils puissent être libres à partir de cette heure, afin qu'ils soient capables de manger de la nourriture d'aigle que nous croyons que tu vas nous envoyer au cours de cette semaine, Seigneur, brisant ces sceaux et nous montrant ces mystères qui ont été cachés depuis la fondation du monde, comme tu l'as promis. Ils sont à toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui croient et acceptent, levez-vous et dites, « Je crois, j'accepte cela. Ce que Dieu m'a promis, je le reçois. Que le Seigneur vous bénisse. C'est merveilleux. Tout le monde est debout. Chantons-lui cet hymne maintenant. Je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. Tous ensemble maintenant. Oh, n'est-il pas merveilleux? Serrons-nous la main les uns les autres. Frère Aigle, tournez-vous simplement alors que nous le chantons. Comment saurez-vous, comment le monde saura-t-il que vous aimez Jésus? Parce que nous nous aimons les uns les autres. C'est ainsi que le monde... Vous voyez, Dieu voit votre foi, le monde voit vos actions. Aimez-vous les uns les autres. Soyez aimables les uns avec les autres. Parlez l'un de l'autre avec patience et toute instruction supplémentaire que nous pouvons donner concernant le baptême, la recherche du Saint-Esprit. Nous n'avons pas suffisamment de salle ici pour faire cela, vous comprenez. L'appel à l'autel. Si Dieu vous a convaincu que ceci est vrai, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que vous désirez vous joindre à lui, allez, soyez baptisés demain dans son nom. Il y aura là-bas des hommes pour vous instruire. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous aider. Vous qui êtes au téléphone, Tucson, dans l'Est, levez les mains, louez-le. Maintenant, jusqu'à demain soir, je vous remets à Frère Neville, notre pasteur.